La porteuse de pain, deuxième partie, chapitre 26 à 30. Lucien et Lucie, après être allés faire une promenade au jardin des plantes, étaient revenus au quai Bourbon. Le souvenir de la scène qui s'était passée dans le logement de Lucie semblait effacé de leur esprit. Tout en causant gaiement, la jeune fille s'occupa des apprêts du dîner et Lucien lui vint en aide dans les petits détails des travaux culinaires. La demi après 6 heures du soir venait de sonner lorsque Lucie dit en riant « Monsieur mon fiancé, vous êtes servi. À table. » « Décidément, maman Lison ne vient pas, » fit Lucien. « Non, et cela m'étonne un peu. J'ai peur que sa patronne ne soit plus malade. » Cette phrase était à peine prononcée quand un coup léger, frappé contre la porte de la chambre, se fit entendre. « Entrez !»« Entrez !» cria Lucie. La porte s'ouvrit et maman Lison, ou pour mieux dire Jeanne Fortier, en franchit le seuil. Lucien lui tendit la main. « Bonsoir, ma chère dame, » lui dit-il. « Nous parlions de vous. » Lucie courut embrasser la nouvelle venue. « Vous dînez avec nous, n'est-ce pas ? » lui demanda-t-elle. « Non, chère mignonne, » répondit Jeanne. « Malgré tout le plaisir que cela me ferait, c'est impossible. »«
Pourquoi donc ? » ?»«
Madame Lebray, ma patronne, ne va pas mieux. Au contraire, il faut donc que je retourne à la boutique. » « Je suis venue prendre un caraco pour m'envelopper cette nuit, mais je n'ai point voulu entrer chez moi sans vous avoir vus tous les deux, car je pensais bien trouver ici Monsieur Lucien. »
« Lucien qui va me quitter pour 3 semaines, » fit Lucie tristement.
« Vous quittez ?» répéta Jeanne avec inquiétude.
« Est-ce que c'est vrai ?»«
Oui, maman Lison, » répondit le jeune homme.
« Mais qui vous y oblige ?
Un important travail en province à surveiller pour mon patron, Monsieur Paul Armand.
« Et votre absence durera 3 semaines ?»«
À peu près. »«
Toute une éternité, » dit la jeune fille.
« Et vous ne serez pas là pour me tenir compagnie, maman Lison. »
« Ça me cause un vrai regret, mignonne. Un grand regret, vous le savez bien. Mais je ne puis abandonner cette pauvre femme qui a été si bonne pour moi et qui veut que ce soit moi qui la soigne. Soyez certaine d'ailleurs que je viendrai vous embrasser chaque fois qu'un moment de liberté me le permettra. »
« C'est cela, maman Lison, » dit Lucien. « Du reste, » poursuivit Jeanne, « je me dépêcherai dans mes tournées chaque matin et je pourrai prendre quelques minutes pour vous distraire en vous apportant votre petit pain de 2 livres. »«
Nous parlerons de lui, » murmura Lucie en regardant son futur mari.
« De quoi parlerions-nous si ce n'est de lui ? Mais je vous empêche de dîner et je suis sûre que Madame Lebray s'impatiente de ne point me voir revenir. Bon voyage, je vous souhaite, Monsieur Lucien. » Je prierai le bon Dieu afin qu'il vous accompagne et vous garde. Soyez tranquille, personne ne vous oubliera ici. Quant à moi, je ferai tout pour veiller le plus souvent possible sur votre cher trésor. » Elle couvrit de baisers les joues de Lucie, puis elle ajouta « À bientôt. En sortant de chez moi, je viendrai vous dire encore une fois bonsoir. » Jeanne gagna sa chambre, prit les objets qu'elle était venue chercher, puis elle revint embrasser de nouveau Lucie, serrer la main de Lucien, et regagna la boulangerie de la rue Dauphine. Le fils de Jules Labroux, devant partir le lendemain matin par le train de 6h30, avait besoin de prendre un peu de repos avant de se mettre en route. Vers 10h, il quitta Lucie, après lui avoir renouvelé sa promesse de lui écrire tous les jours, et il se fit conduire en voiture à son logement, de la rue de Miromesnil. Le lendemain, il trouvait au chemin de fer le contremaître et les 2 mécaniciens qui l'accompagnaient à Bellegarde, et bientôt la vapeur les emportait tous les 4. Depuis le jour où nous le leur avons présenté pour la première fois, nos lecteurs ont eu plus d'une fois la preuve que le Dijonnais Ovid Soliveau, amplement doué de tous les vices, était capable de tous les cris. Sur le paquebot, le Lord Maire, qui le conduisait en Amérique, il s'était, on s'en souvient, livré à une tentative de vol, et ce n'était pas son coup d'essai, car René Bosque, l'ancien agent de la Sûreté, qui allait rejoindre sa fille à New York, avait appris à Paul Armand qu'il s'était trouvé porteur d'un mandat d'amener décerné contre Soliveau pour fait de même nature. Du vol et du chantage à l'assassinat, la distance était courte pour un gaillard qui ne reconnaissait ici-bas qu'une loi,
celle de son intérêt personnel. Rien ne pouvait lui plaire davantage que de travailler pour le compte de son prétendu cousin, dont il savait la fortune à peu près inépuisable. Aussi avait-il accepté sans l'ombre d'une hésitation ou d'un scrupule le rôle monstrueux que lui proposait Jacques Garot. Ce dernier allait une fois de plus se mettre pieds et poings liés à sa merci. Il se promettait bien d'exploiter en homme habile la situation et d'en tirer tout le parti possible. De plus, il aimait les émotions, de quelque nature qu'elles fussent. Nous lui avons entendu dire à lui-même que les préliminaires du crime projeté l'amusaient, et que lorsqu'un projet amuse, on trouve sans peine des expédients pour le faire réussir. Ces expédients, il fallait les chercher dans les habitudes de la personne que Jacques Garot le chargeait de frapper. Ovide pensa que la défroque d'ouvrier maçon revêtue par lui la veille n'était point du tout de mise pour entrer en campagne, et qu'il lui faudrait des déguisements variés, lui permettant de se constituer des individualités multiples afin de dépister les recherches qui ne manqueraient pas d'être faites par la police après la suppression de Lucie. Levé de bonne heure, Ovide Solivo s'habilla de ses plus vieux vêtements, prit une valise vide et se rendit en flâneur au temple, au quartier de la friperie. Là, il alla de boutique en boutique, bavardant avec les vendeurs, se donnant à eux comme un comédien de province complétant sa garde-robe. Bref, il acheta pour fort peu d'argent plusieurs costumes dont les caractères étaient bien tranchés. Il y joignit les moindres détails d'ajustement, allant avec chacun de ses costumes et complétant l'ensemble de manière à tromper les yeux de l'observateur le plus exercé. Ovide avait l'intuition du comédien consciencieux qui cherche l'effet dans la vérité absolue, dans le naturalisme, et considère une vieille blouse jadis bleue, blanchie par l'usage, comme un document. Lorsqu'il revint à l'avenue de Clichy en fiacre, non seulement sa valise regorgeait, mais encore une demi-douzaine de paquets volumineux y étaient joints. Il transporta tout cela dans un cabinet de son pavillon, cabinet transformé en garde-robe, et comme l'eût fait un costumier de théâtre, assembla méthodiquement les objets formant un ensemble. N'ayant terminé son travail qu'à une heure fort avancée de la soirée, il remit au lendemain les premières démarches qu'il se proposait de faire afin de se mettre au courant des habitudes de Lucie. Ce que lui avait dit Paul Armand au sujet de la jeune fille était gravé dans sa mémoire. Il fallait maintenant savoir avant tout si la fiancée de Lucien Labroux allait chaque jour travailler chez Madame Augustine, à quelle heure elle quittait son logis du quai Bourbon et à quelle heure elle y rentrait. Avant d'être au courant de ces diverses choses, tresser un plan était impossible. Le mardi matin, Ovide, vêtu en commissionnaire médaillé, sortit de chez lui, gagna la place Clichy et là prit un omnibus qui devait par correspondance le conduire non loin de l'île Saint-Louis. Admirablement grimé et commissionnaire de la tête aux pieds, le Dijonnais était méconnaissable. Il descendit de l'omnibus près de l'hôtel de ville, dont on pressait les travaux de reconstruction, et se rendit pédestrement au quai Bourbon. Arrivé à quelques pas de la maison qu'habitait Lucie, Ovide tira de sa poche un morceau de papier sur lequel il avait écrit l'adresse de la jeune fille. 9 heures sonnaient au clocher de l'église Saint-Louis-en-Lille. Le faux commissionnaire passa sous la voûte, traversa la cour, alla droit à la loge de la concierge, et feignant de lire le nom tracé sur le papier qu'il tenait à la main, il dit « Mademoiselle Lucie, s'il vous plaît, madame. Au 6e, la porte à gauche. Elle est chez elle ? Ça, pour sûr. Bien des merci. » Ovide s'engagea dans l'escalier et gravit les marches. Arrivé au second étage, il s'arrêta. « Si la petite n'est point sortie à 7 heures, se dit-il, c'est qu'elle travaille chez elle. Donc, il y a des chances pour qu'elle se rende aux ateliers de sa maîtresse couturière seulement pour reporter son ouvrage. Je vais m'assurer de ça. » Il laissa s'écouler 4 ou 5 minutes, puis il redescendit. La concierge, absorbée par la confection de son déjeuner, ne le vit point passer devant la loge et sortir. En quittant le quai Bourbon, Ovide se rendit rue Saint-Honoré et n'eut pas besoin de chercher la maison de Madame Augustine. Le nom de la grande couturière s'étalait en lettres dorées énormes tout le long du balcon du premier étage. Le pseudo-commissaire monta droit aux ateliers et sonna. Un domestique en livrée très correct vint lui ouvrir et le mit en rapport avec une demoiselle du salon d'essayage, fort jolie fille, vêtue à la dernière mode et servant de mannequin vivant pour l'exhibition des merveilleuses toilettes sorties du cerveau de la tailleuse. Ovide jugea convenable de faire un peu de couleur locale en s'exprimant avec l'accent le plus pur des fils de l'Auvergne. « Mademigel Luchy, s'il vous plaît, » demanda-t-il. « Qui ça, ma Migel Luchy ?» fit l'essayeuse en riant. « Une ouvrière de votre maison, Fouachtra. »
« Ah, Lucie !
Oui, chez Bienchat, ma Migel Luchy.
Elle ne travaille pas ici, elle emporte l'ouvrage chez elle.
Qu'est Bourbon, alors ?
Oui.
Est-ce que vous lui apportiez une lettre ?
Non, c'est une commission.
Ah ah, une commission !
Et de quelle part ?
De la part d'un monsieur.
Parfait, je m'en doutais.
Ah, elle connaît des messieurs, cette sainte Mitouche.
Eh bien, que le monsieur aille chez elle.
Lucie est une prétentieuse, qui fait sa poire, comme on dit dans le grand monde, et ne montre son nez ici que pour rapporter son ouvrage ou venir chercher des fournitures.
Merci, Mme Migel.
Et comment est-il, le monsieur ? Reprit l'essayeuse.
C'est un particulier très cochu.
Ah, très cossu.
Oui, Mme Migel.
Ovid tourna sur ses talons. La demoiselle rentra dans le salon d'essayage, extrêmement vexée de ce qu'elle appelait l'heureuse chance de cette petite dinde de Lucie. Tout en descendant, le Dijonnais se disait « Elle est envieuse et déteste sa camarade. Il y aura peut-être là quelque chose à exploiter au profit de notre affaire. Ne rien négliger, c'est ma devise. » Une fois sur le trottoir, il s'arrêta en se demandant ce qu'il allait faire. Lucie ne vient ici que lorsque son travail a rapporté, y appelle, murmura-t-il. Donc, c'est en plein jour, et en plein jour, tout est impossible. Je ne m'acquitterai jamais de ma tâche, à moins d'avoir des renseignements nouveaux et plus étendus.
Qui me les donnera ?
Parbleu, la demoiselle de là-haut. Je disais bien qu'il ne faut rien négliger. C'est par elle que je trouverai le moyen d'arriver au but. Au lieu de s'éloigner, Ovide, voulant mettre immédiatement à exécution l'idée qui venait de lui traverser le cerveau, entra dans la maison de Madame Augustine et se dirigea vers la loge du concierge. Le mari était en course. La femme, comme la portière du Quai Bourbon, s'occupait de préparer le déjeuner. « Excusez-moi, madame, lui dit le faux commissionnaire, j'aurais un petit renseignement à vous demander. »«
Quel renseignement, mon brave homme ?
Pourriez-vous me dire à quelle heure les ouvrières de Madame Augustine sortent de l'atelier ?» La concierge sourit en femme qui connaît les dessous de la vie parisienne et qui sait ce que parler veut dire.
« Ce n'est pas pour vous que vous me demandez ça, » fit-elle.
Ovide se mit à rire. « Vous avez vu la chose du premier coup, » répliqua-t-il. « Ah, vous pouvez vous vanter d'avoir l'œil américain, ma chère dame !» Tout en parlant, il glissait un louis dans la main de son interlocutrice.
« Eh bien, non, ce n'est pas pour moi, » reprit-il.
« C'est une commission qu'on m'a chargée de faire. » La concierge jeta un regard sur la pièce, reconnut qu'elle était en or, et son sourire devint de plus en plus bienveillant.
« Je ne demande pas mieux que de causer, » dit-elle.
« C'est ça, causons. Il y a chez Madame Augustine plusieurs sortes d'ouvrières, les couturières, les demoiselles de magasin, les essayeuses. C'est de celles-là que je veux parler. »
« Eh bien, elles sortent à 8 heures du soir. »«
Sont-elles nombreuses ?»«
Elles sont 3, Mademoiselle Irma, Mademoiselle Reine et Mademoiselle Amanda. Une brune assez jolie et très coquette, la plus jeune des 3. »«
Est-ce celle qui a un signe au bas de la joue, du côté droit ?»«
Précisément. »«
Et dans la journée, s'absente-t-elle quelquefois ?»«
Elles ont 1 heure pour déjeuner et vont l'une après l'autre, à partir de 11 heures, au petit restaurant à côté. »
« Vous m'avez dit, je crois, que la jolie brune au signe noir se nommait Mademoiselle Amanda. »«
Oui, mon brave homme, et ça doit être à son sujet que vous venez ici. »«
Ça se pourrait. »«
Merci, ma chère dame. »
Sachant ce qu'il voulait savoir, Ovide tourna sur ses talons. Tout en le regardant traverser la cour, la concierge pensait. « Voilà un commissionnaire intelligent et qui doit gagner gros, car on voit tout de suite qu'il a la grande habitude de faire ce métier-là. » Il est expédié par quelque gommeux qui veut faire la cour à cette prétentieuse d'Amanda. Elle en était là de son monologue, quand Mademoiselle Amanda, elle-même, parut au bas de l'escalier, s'arrêta sur le seuil de la loge et demanda. Vous n'avez rien pour moi, Mme Bardet ?»
La concierge prit une physionomie malicieuse et répondit par cette question.
« Est-ce que vous attendez quelque chose, mademoiselle ?»«
J'ai rêvé chien blanc cette nuit, et le livre de l'explication des songes prétend que ça signifie « bonne nouvelle ». Donc, j'apprendrai aujourd'hui quelque chose qui me fera plaisir. »
Madame Bardet se pinça les lèvres d'un air discret et répliqua.
« Ça se pourrait tout de même. Vous n'avez peut-être pas tort de compter sur votre rêve.
« Vous savez quelque chose ?» s'écria la jeune fille.
« Eh bien, oui. »«
Qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Ma petite Madame Bardet, soyez gentille. Apprenez-moi ça bien vite. »«
Je sais que selon toute apparence, vous pourriez prochainement avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'intéresse à vous. »«
On vous a donc parlé de moi ?»«
Vaguement.
Enfin, on vous en a parlé. Que vous a-t-on dit ?»«
On m'a questionné à votre sujet. »
« Qui ça ? Un monsieur chic ?»«
Pas celui qui m'a questionné, mais celui qui expédiait le questionneur l'est certainement. »«
Qu'est-ce qu'on vous a demandé ?»«
À quelle heure vous sortiez pour aller déjeuner ? À quelle heure vous quittiez l'atelier le soir ?»«
Vous avez répondu ?»«
Ce qu'il fallait répondre, et ensuite je vous ai fait mousser de la belle manière. »«
Madame Bardet, si mon rêve n'a point menti, s'il m'arrive quelque chose d'heureux, je ne me montrerai pas ingrate. » Je vous ferai cadeau d'une montre en or avec sa chaîne. Alors, c'est comme si je le tenais. Maintenant, je cours déjeuner. Je suis en retard.
Mademoiselle Amanda, l'esprit hanté par des rêves ambitieux et bâtissant des châteaux en Espagne, courut à son petit restaurant où la fièvre de l'attente l'empêcha de manger. Amanda Regami avait 22 ans. Nous savons qu'elle était jolie et nous savons aussi qu'elle portait la toilette d'une façon ravissante. C'est là seulement ce qui lui avait valu d'être admise dans la maison de Madame Augustine, car il aurait été difficile de trouver une ouvrière plus inhabile aux travaux de couture. On l'habillait avec luxe afin de mettre en valeur, grâce à l'élégance de sa tournure, les créations de la tailleuse en vogue, et on lui avait appris à essayer. Fille d'un ménage d'ouvriers où le mari hantait les assommoirs, où la femme fréquentait les bals de barrière, elle avait grandi dans la rue, comme une enfant presque abandonnée, recevant plus de coups que de caresses et n'ayant sous les yeux que des exemples déplorables. Absolument dépourvue des principes les plus élémentaires, Amanda n'aspirait qu'à l'oisiveté, au luxe, aux jouissances matérielles. Son idéal était de devenir l'émule de ces femmes dont le métier est d'être belle et dont s'occupe tout Paris. Se sachant jolie, il lui semblait entrevoir dans les mirages d'un radieux avenir un petit hôtel aux environs de la rue Prony, des domestiques, un coupé et une victoria, des avant-scènes aux premières représentations et les écrevisses bordelaises des cabinets particuliers. Le chien blanc de son rêve et les paroles de Madame Bardet lui semblaient donner une certaine consistance à ce mirage et lui montraient comme prochaine cette ère de félicité. Elle avait habité Joigny pendant une année chez une modiste et elle en était partie à la suite d'une fâcheuse aventure que nous connaîtrons plus tard. Ce jour-là, elle essaya les costumes tout de travers et piqua maladroitement plus d'une cliente en épinglant les retouches. Les minutes lui semblaient longues comme des heures. Le moment de partir n'arriverait donc jamais.
« On va m'attendre sans doute, » se disait-elle. « Me suivre ? Me parler ? Comment m'y prendre pour tenir la dragée haute à l'inconnu qui s'intéresse à moi, sans le décourager cependant ?»
À 8h15, Amanda et ses deux compagnes passèrent dans le cabinet de toilette affecté à leur usage, quittèrent les robes luxueuses de Madame Augustine et revêtirent les costumes plus simples qui leur appartenaient. Amanda souffrait chaque soir dans son amour-propre en changeant de vêtements. Les toilettes tapageuses lui allaient à merveille et la simplicité ne lui seyait pas. Du moins, telle était son opinion. Quand elle eut achevé, elle jeta un regard de dépit sur le miroir où son image se reflétait et sortit la dernière. Cette fois, elle ne s'arrêta point à causer avec la concierge et gagna la porte de la rue. Là, elle s'arrêta et jeta un rapide coup d'œil à droite et à gauche sur le trottoir, espérant y constater la présence de quelque jeune gommeux, le gardénia à la boutonnière. Elle n'aperçut qu'un homme de 50 ans environ, aux cheveux grisonnants, bien mis et d'apparence respectable.
« Ce ne doit pas être celui-là, » murmura-t-elle. « L'autre est sans doute un peu plus loin. et elle se mit à marcher à tout petits pas. Au moment où elle passait devant l'homme aux cheveux gris, celui-ci la salua en souriant. Amanda se dit sans trop de surprise. « Tiens, tiens, il paraît que c'est lui. Au fait, il a l'air d'un monsieur cossu, et très comme il faut. » Elle ne rendit ni le salut, ni le sourire, mais elle marcha de plus en plus lentement, avec de petits sautillements prétentieux qu'elle croyait de nature à faire valoir l'élégance de sa démarche. Ovide, que nos lecteurs ont déjà reconnu, donnait à son visage une expression ironique en la regardant manœuvrer. « Va, va, » pensait-il en la suivant. « Manière-toi tout à ton aise, ma poulette. La concierge a certainement parlé. Je te tiens. » Amanda continuait à marcher, s'arrêtant devant les boutiques et jetant derrière elle un regard furtif pour s'assurer que l'inconnu, d'apparence respectable, la suivait toujours. Il gardait soigneusement sa distance. La jeune fille alors se remettait à trottiner. L'un derrière l'autre, ils longèrent la rue de la Paix, les boulevards, prirent la rue du Faubourg Montmartre et arrivèrent à la rue des Martyrs. L'essayeuse fit halte de nouveau devant un magasin de lingerie. Cette fois, Ovide vint se placer à côté d'elle. « C'est bien à Mademoiselle Amanda que j'ai l'honneur de parler ?» murmura-t-il à son oreille d'un ton insinuant. La jeune fille regarda son interlocuteur et joua la surprise. « Oui, monsieur, » répondit-elle. « Mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître ?» Ovide répliqua galamment. « Ceux qui vous admirent sont trop nombreux. Vous ne pouvez les connaître tous. » Amanda rougit d'orgueil en s'entendant ainsi complimentée. Elle pensa, « Plus très jeune, cet homme-là, mais bien conservé, et rudement chic. » Puis elle reprit sa marche, mais cette fois Ovide, au lieu de la suivre, se tenait sur la même ligne. La rue des Martyrs est longue et montueuse, par conséquent fatigante, reprit-il. Voulez-vous me permettre, mademoiselle, de vous offrir l'appui de mon bras? Amanda crut devoir balbutier. Pourquoi le permettrai-je, monsieur? Je vous répète que je ne vous connais pas. Sans doute, mais je vous connais, moi, depuis longtemps, mademoiselle. Depuis longtemps, j'ai le désir de vous connaître plus encore. Mais je suis timide. Et jusqu'à ce soir, je n'ai point osé vous aborder pour vous le dire. Je ne m'explique pas le désir dont vous parlez. Il est bien facile à comprendre, cependant. Pour vous, peut-être, mais pour moi, c'est une énigme. Trois mots vous en donneront la clé. Lesquels ? Ceci. Je vous aime. Vous m'aimez ? Répéta l'essayeuse en riant. Ah, monsieur, vous me permettrez de n'en rien croire.
Pourquoi donc ?
« Parce que les hommes disent cela à toutes les femmes. »«
Les autres peuvent mentir. Moi, je suis sincère. »«
Alors, si vous m'aimez, monsieur, quelles sont vos intentions ?»«
Honorable, mademoiselle, n'en doutez pas. »«
Vous seriez bien embarrassée si je vous demandais de m'en donner la preuve. »«
Nullement, mais il est difficile, impossible même, d'avoir dans la rue une conversation sérieuse et suivie. »«
Peut-être d'ailleurs n'avez-vous point encore dîné. »
« Non, monsieur.
Moi non plus. Eh bien, permettez-moi de vous offrir des huîtres, un perdreau et des écrevisses. Nous causerons les coudes sur la table. »
Amanda se mit à rire.
« Un tête-à-tête, comme cela, tout de suite ? » fit-elle.
« Pourquoi non ? Cela n'engage à rien. »
« Soit, mais c'est compromettant.
Point avec un homme de mon âge dont les intentions sont honorables.
Acceptez sans hésiter, croyez-moi. »
« Me promettez-vous d'être paternelle ?
Et rien que paternelle.
Je vous le jure.
Eh bien, j'ai confiance en vous. J'accepte.
À la bonne heure. Où dînerons-nous ?
Où vous voudrez.
Alors, entrons là, au faisant.
Nous n'y serons pas plus mal qu'ailleurs. »
5 minutes plus tard, Ovide Soliveau et l'essayeuse de Madame Augustine étaient installés en face l'un de l'autre dans un cabinet particulier. Nous ne ferons pas assister nos lecteurs à ce repas où il ne se passa rien d'intéressant pour notre récit. Il nous suffira de dire que, fidèle à sa parole, le monsieur aux cheveux gris et aux allures convenables se montra très affectueux, très empressé, mais en même temps très paternel. Amanda le trouva charmant et fonda sur lui les plus riches espérances. Le repas terminé, Ovide fit venir une voiture.
« Je vais vous mettre à votre porte, » dit-il. Ensuite, je regagnerai mon logis, où votre image m'accompagnera.
Où demeurez-vous ?
Rue des Dames, numéro 29, à Batignolles. Le fiacre roula et au bout d'un quart d'heure fit halte à l'endroit indiqué.
« Quand vous reverrai-je ? » demanda la jeune fille en mettant pied à terre.
« Demain matin à 11 heures, répondit Ovide.
« Demain à 11 heures ? Répéta l'essayeuse étonnée.
« Où donc ? »
« Au restaurant, vous déjeunez chaque jour. »
« Vous le connaissez ? »
« De même que je connais tout ce qui vous concerne. J'y serai avant vous, et je vous attendrai en commandant un menu qui vous plaira. »
« Vous êtes un homme charmant.
À demain !»
Amanda rentra chez elle. Ovide donna l'ordre de le conduire à la place Clichy. Chemin faisant, il se disait en se frottant les mains. « Dans 5 ou 6 jours, je saurai tout ce qui se passe chez Madame Augustine et tout ce qui regarde Mademoiselle Lucie. » Enchanté des résultats obtenus et de ceux qu'il entrevoyait dans un avenir prochain, il se coucha et ne tarda point à s'endormir, tandis que de son côté, Amanda faisait des rêves d'or. À 11 heures moins un quart, le lendemain, Ovide arrivait au petit restaurant où il commandait un déjeuner fin que la jeune fille venait partager à 11 heures un quart. Avant de se séparer, Solivo et Amanda prirent rendez-vous pour dîner ensemble le soir, et il fut arrêté que chaque jour il en serait de même. Le surlendemain, en arrivant à 11 heures précises au petit restaurant, la jeune fille dit à son vieux soupirant
« Il faut nous dépêcher aujourd'hui. J'ai une course à faire pour la patronne. »
« Une course ? » ?»«
Oui, je dois porter l'étoffe et les garnitures d'une robe de bal à l'une des ouvrières de l'extérieur. Il s'agit d'un travail pressé. »«
Et vous irez loin ?»«
À l'autre bout de Paris, quai Bourbon, numéro 9. »«
C'est chez Lucie, » se dit Ovide, puis il ajouta tout haut. « Voulez-vous me permettre de vous accompagner ? Du moins, ainsi nous serons plus longtemps ensemble. »«
Mais parfaitement. Prenez une voiture et attendez-moi à 20 pas de la maison. »
« C'est convenu. » La jeune fille se hâta de déjeuner et quitta le restaurant. Ovide alla chercher un fiacre et se fit arrêter non loin de la demeure de Madame Augustine. Amanda ne le laissa pas longtemps attendre. Avant que 10 minutes se fussent écoulées, elle montait en voiture, mettait son paquet sur la banquette du devant et disait au cocher
« Quai Bourbon, numéro 9 !»
Ovide pensa que le moment de questionner était arrivé et il demanda.
« Est-ce que votre patronne a beaucoup d'ouvrières en ville, ma poulette ?»«
Non, répondit l'essayeuse, elle n'aime pas cela. Elle en a cependant par exception quelques-unes qu'elle tient à conserver, et qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas ou ne veulent pas venir à l'atelier.
« Ainsi, Lucie ?»«
Qui ça, Lucie ?» interrompit Ovide.
« L'ouvrière chez qui je vais ?»«
Une jeune fille ?»«
Oui. Jolie ?»«
Ni belle, ni laide, mais bête comme une pintade. » Et poseuse comme on ne l'est pas. Elle joue les ingénuités à la ville. C'est à faire hausser les épaules. Plus souvent que j'y crois à sa vertu. Mais elle est très habile, il faut lui rendre cette justice, et madame a raison de compter sur elle. Ainsi, voilà une robe de bal qu'il faut aller essayer après-demain à la Garenne de Colombes, et qui doit être livrée samedi, sans faute, à 9 heures du soir. Eh bien, elle sera finie à l'heure précise. Et fignolée, je ne vous dis que ça.
À la Garenne de Colombes, une robe de bal ?
Fit Solivo d'un air surpris.
Qu'est-ce que ça a d'étonnant ? C'est pour la femme du maire qui est invitée chez le préfet de la Seine.
Et cette demoiselle Lucie est obligée d'aller essayer si loin ?
Avec le chemin de fer, ce n'est pas plus loin qu'autre chose. Je suis allée plusieurs fois chez cette dame, moi qui vous parle.
On prend le train à la gare Saint-Lazare, on descend à la station de Bois-Colombes, on traverse la ligne du chemin de fer de Versailles, et on suit le long de la voie un petit chemin qui conduit juste en face de la maison de Monsieur le maire, route de Paris. C'est une jolie promenade en plein jour, mais pas la nuit, par exemple.
Vous avez donc suivi ce chemin la nuit, ma poulette ?
Oui, une fois.
Seule ?
Non, avec Lucie. Nous étions allés porter à cette dame une robe de soirée, et il fallait qu'elle s'habillât devant nous afin de voir si rien ne clochait. Elle était minutieuse, cette cliente, et pas facile à contenter. Elle nous a tenus jusqu'à 10 heures passées.
Obligée alors de venir prendre le train à Bois-Colombes.
Oui, à 6:30.
Aucun danger que la cliente nous offrit de nous ramener à Paris dans sa calèche.
Ça manquait en effet de gaieté de revenir si tard par des petits sentiers déserts. Je suis sûre que vous aviez peur.
Vous en pouvez jurer hardiment. Nous tremblions toutes les deux comme la feuille.
Et vous serez obligée de retourner pour cette robe ? Dit Ovide en désignant le paquet placé sur la banquette de devant.
« C'est fort à craindre, » répliqua la jeune fille.
« Ah, quel ennui de faire un métier pareil.
Patience, patience, ma poulette. Cet ennuyeux métier, peut-être ne le ferez-vous pas longtemps.
Mon petit doigt m'a prévenu que quelqu'un qui professe pour vous autant d'admiration que d'estime ne tardera guère à vous offrir une position brillante.
Quelqu'un qui m'admire? Répéta l'essayeuse en minaudant.
Qui donc?
Coquette, vous savez bien que c'est moi.
En ce moment, la voiture fit halte. On était arrivé en face du numéro 9 du quai Bourbon. Amanda prit le paquet et descendit du fiacre en disant à Ovide.
Vous allez m'attendre là. Je serai de retour avant 5 minutes.
Puis elle disparut sous la voûte de la maison qu'habitait Lucie. Le Dijonnais se blottit dans un coin du fiacre, ferma les yeux et se mit à réfléchir. Légère comme une gazelle, Amanda eut gravi bien vite les 6 étages de la couturière. Elle frappa 2 petits coups à la porte.
« Entrez !» cria Lucie depuis l'intérieur. « La clé est à la serrure !»
L'essayeuse franchit le seuil.
« C'est vous, mademoiselle Amanda ?» dit la fiancée de Lucien Labroux. « Je parie que vous m'apportez de l'ouvrage pressé.
Votre pari est gagné d'avance. C'est en effet très pressé.
Et pour qui ?»
Pour une cliente qui n'est pas commode.
Devinez?
Alors, c'est pour la dame de la Garenne de Colombes, fit Lucie en riant.
Juste, une robe de bal.
Quand faudra-t-il essayer?
Après-demain.
Mais après-demain, c'est impossible.
Pourquoi donc?
Parce que je travaille à un costume également très pressé pour mademoiselle Armand.
Lâchez le costume, c'est l'ordre de la patronne. La robe avant tout.
Vous irez essayer après-demain à 3 heures. Cette dame a besoin de sa toilette de bal samedi pour aller à la réception du préfet de la Seine.
Lucie leva les mains vers le plafond.
Samedi ? S'écria-t-elle.
Et nous sommes à mercredi.
Vous passerez les nuits, voilà tout. La patronne m'a chargée de vous promettre une gratification conséquente.
Elle tient à sa cliente grinchue de la Garenne de Colombes et ne regarda rien pour la contenter.
Eh bien, ce sera fait. Est-ce qu'il faudra porter la robe comme la dernière fois ?
Naturellement, mais j'irai avec vous. La patronne l'a dit.
Ça ne nous a pas empêchés d'avoir peur dans le chemin des airs.
Nous chanterons pour nous rassurer.
Enfin, puisqu'il le faut. Maintenant, expliquez-moi la façon et montrez-moi les garnitures.
Amanda défit le paquet et donna les explications demandées.
C'est compris. Je vais m'y mettre tout de suite.
Après-demain, l'essayage à 3 heures.
Je serai exact.
Et samedi, la robe pour 9 heures du soir.
Mais je vous reverrai sans doute d'ici là.
Pas à l'atelier toujours.
C'est à peine si j'aurai le temps de préparer mon déjeuner et mon dîner.
Prévenez la patronne.
Alors, je viendrai ici m'entendre avec vous pour le départ.
Au revoir, mademoiselle Lucie.
Au revoir, mademoiselle.
Amanda sortit de la chambrette et s'élança dans l'escalier.
Ovide, qui réfléchissait toujours, les yeux clos, tressaillit en entendant ouvrir la portière.
« Vous dormiez ?» lui dit la jeune fille en s'installant à côté de lui.
« Tout exprès pour vous voir en rêve. »«
Ceci est du dernier galant. Ramenez-moi où vous m'avez prise. »
Une demi-heure plus tard, Amanda rentrait chez Madame Augustine après avoir donné rendez-vous pour le soir à Ovide. Celui-ci, très préoccupé, alla flâner sur le boulevard en laissant travailler son imagination. À 8 heures, il attendit Amanda à la sortie des ateliers et la mena dîner.
« Je ne déjeunerai pas avec vous demain matin, ma poulette, » lui dit-il. « Je suis obligée d'aller à Fontainebleau pour des affaires d'intérêt. »«
Les affaires avant tout, je suis pratique. »«
Mais nous dînerons ensemble. »«
Cette espérance me fera paraître la journée moins longue. »«
Vous êtes adorable. Que ferons-nous ce soir ?»«
Conduisez-moi aux Folies Bergères, voulez-vous ?»«
Je veux tout ce que vous voulez. Allons. »
Lucien Labroux et les hommes qui l'accompagnaient étaient arrivés à Bellegarde à 10 heures du soir. À la gare, on leur indiqua un hôtel où ils trouvèrent un bon souper et un bon gîte. Le lendemain matin, Lucien se rendit à l'usine et s'entendit avec les industriels, les travaux dont il était chargé de surveiller l'exécution devant commencer dès le jour suivant. Après cette entrevue, il crut devoir informer M. Armand de son arrivée à bon port et des paroles échangées entre lui et ses clients. Pendant le voyage, le jeune homme s'était livré tout entier à ses réflexions. Il pensait à sa fiancée, et en pensant à elle, il ne pouvait empêcher l'image de mademoiselle Armand d'apparaître à côté de celle de Lucie. Sa mémoire lui retraçait les moindres détails de la scène qui s'était passée le dimanche dans la chambrette de l'ouvrière. Il revoyait le visage pâle de la pauvre Mary. Il revoyait ses lèvres contractées, ses yeux pleins de larmes. Il se rendait compte des souffrances de ce cœur que son indifférence brisait, des tortures de cette âme que son amour pour Lucie livrait au désespoir, et il éprouvait un attendrissement profond, une immense compassion. Il regrettait de ne pouvoir l'aimer par pitié pour elle. « Elle se meurt, pensait-il, et j'augmente ses douleurs. J'abrège sa vie en restant fidèle à son serment. » Ne serait-ce point une bonne action, un acte charitable de lui laisser croire jusqu'à la fin que je pourrais l'aimer un jour? Elle a si peu de temps à vivre. L'espérance la soutiendrait et rendrait moins triste pour elle les approches de la mort. Si je faisais cette bonne action, et si Lucie en était instruite, elle a l'âme trop noble, le cœur trop généreux pour ne point me comprendre et ne pas m'approuver. Sous l'impression des pensées compatissantes que nous venons de reproduire, Lucien termina la lettre qu'il écrivait à l'industriel millionnaire par ces mots. « Veuillez, je vous prie, cher monsieur Armand, être auprès de mademoiselle Mary l'interprète de mes sentiments de très reconnaissante et très respectueuse affection. Malgré la distance qui nous sépare, mademoiselle Mary est sans cesse présente à ma pensée. Je n'oublie point, je n'oublierai jamais que si je suis votre modeste mais bien dévoué collaborateur, c'est à elle que je le dois. » Il me semble qu'en traçant ces lignes, j'allège ma conscience d'un fardeau, pensa le jeune homme, et il signa. Cette lettre achevée, Lucien en écrivit à Lucie une autre, où la tendresse profonde, l'amour infini débordait. Après lui avoir donné des détails sur son voyage, il la priait d'embrasser de sa part maman Lison. Le courrier du soir emporta les deux épîtres. Si Lucie fut heureuse en recevant la sienne, le faux Paul Armand ne le fut pas moins en lisant les phrases que nous avons cru devoir citer textuellement. Ces phrases lui semblèrent d'heureux augures, à tel point qu'il fut tout près de renoncer au projet de faire disparaître Lucie. « Le voici qui fait amende honorable, » se dit-il. J'avais deviné juste en pensant que cette prétendue grande passion n'était au fond qu'un enfantillage. Il a réfléchi. On ne repousse guère la fortune quand elle se présente sous quelque forme que ce soit. Il n'a point fait exception à la règle. Avant 2 mois, il sera au pied de ma fille, et je crois que la suppression de l'impuissante rivale devient inutile. Tout joyeux, il monta près de Mary afin de lui communiquer les derniers paragraphes de la lettre de Lucien. La pauvre enfant, depuis la scène dont la chambrette du quai Bourbon avait été le théâtre, conservait sa tristesse et son visage sombre. Malgré les affirmations, malgré les promesses, malgré les serments de son père, elle ne croyait plus à la possibilité d'un mariage avec le fils de Jules Labroux. L'image de Lucie, se plaçant sans cesse entre elle et celui qu'elle aimait, fournissait à son désespoir d'intarissables aliments. Les premières paroles de Jacques Garot en entrant furent celles-ci. « J'ai des nouvelles de Lucien, ma mignonne. » Un pâle sourire vint aux lèvres de Mary, un éclair fugitif brilla dans ses yeux. « Il t'a écrit ? » demanda-t-elle. « Oui. » « Que te dit-il ? » « De bonnes choses pour toi. »« En vérité ?» fit Mary avec amertume. « Lis-toi-même ces quelques lignes. » Et Paul Armand, tendant à sa fille la lettre toute ouverte, lui désignait du doigt les phrases se rapportant à elle. L'enfant prit la feuille de papier d'une main tremblante. Le sang affluait à ses joues. Elle lut. « Eh bien ?» demanda le millionnaire à son tour. « Oui, » murmura-t-elle avec un long soupir. Il se souvient de celle qui a plaidé sa cause auprès de toi. Je crois à la reconnaissance qu'il témoigne. Je crois même à son amitié pour moi. » D'une voix plus basse, elle ajouta. « Mais dans ces quelques lignes, il n'y a rien qui ressemble à l'amour naissant. Lucien ne m'aime pas. Il ne m'aimera jamais. Il ne peut pas m'aimer, puisqu'il en aime une autre. » Et la tête de Mary retomba sur sa poitrine. Paul Armand devina les dernières paroles de sa fille plutôt qu'il ne les entendit. En m'écrivant, s'empressa-t-il de répondre, Lucien Labroux devait rester dans les termes dont il s'est servi et ne pouvait aller au-delà. C'est un homme bien élevé, un gentleman qui recherche dans tous ses actes l'absolue correction. Il a dit juste ce que les convenances lui permettaient de dire. Mais mon avis est qu'il a réfléchi beaucoup à la conversation sérieuse que nous avons eue ensemble. Il devient raisonnable. Il comprend qu'il briserait sa vie, son avenir, en épousant une fille sans position, sans fortune, qu'il a pu aimer un instant, qu'il aime encore, interrompit Mary.
Dont il se détache visiblement, reprit le millionnaire.
Qui te fait croire cela?
J'en trouve la preuve dans ces lignes.
Et tu te trompes, s'écria Mary. Mon amour m'éclaire mieux que tes raisonnements ne peuvent le faire. L'instinct de mon cœur est infaillible. Cette jeune fille, cette Lucie, est un obstacle infranchissable. J'ai lu sa confiance dans ses yeux. Elle est sûre de Lucien. Elle aime, elle est aimée. Toute espérance m'est interdite.
Non, 100 fois non. Espère au contraire, tu en as le droit. Je te donne ma parole d'honneur que la lettre de Lucien me paraît un premier pas vers toi. D'ailleurs, l'obstacle qui te paraît infranchissable peut disparaître.
Et comment?
Cette fille peut être infidèle.
Non, non, s'écria Mary. Ses yeux disaient l'amour en même temps que la confiance. Elle ne trompera pas celui qu'elle aime.
Elle peut mourir.
À 20 ans à peine.
La mort frappe à tout âge.
C'est vrai. Je ne souhaite point qu'elle meure. Je le jure. Mais en la frappant, Dieu prouverait qu'il me protège.
Que veux-tu que je dise de ta part à Lucien?
Ce que tu voudras, père.
Ce n'est pas répondre.
Tu ne pourras lui dire la seule chose que j'ai à lui dire.
Quelle est cette chose?
Que je l'aime, fit Mary avec passion. Et que s'il ne m'aime pas, j'en mourrai.
Paul Armand, le cœur serré, embrassa sa fille et sortit pour lui cacher les larmes prêtes à jaillir de ses yeux. Les souffrances de Mary lui causaient une irritation profonde. Peut-être a-t-elle raison, se dit-il. L'instinct de son cœur l'éclaire en effet. Je commence à croire que la reconnaissance seule a dicté les phrases de Lucien. Eh bien, je veux que la reconnaissance devienne de l'amour. Et pour cela, il faut que l'obstacle disparaisse. Cette Lucie est l'obstacle, elle sera brisée. Avant tout, à tout prix et par tous les moyens, le bonheur de ma fille. Dans la journée, le grand industriel répondit à Lucien Labroux, et après avoir consacré aux affaires les 3/4 de sa lettre, il termina par ce paragraphe. N'en doutez pas, mon cher collaborateur, ma fille a été fort touchée des quelques lignes que vous m'adressez pour elle et que je me suis empressée de mettre sous ses yeux. Elle croit cependant ne devoir les attribuer qu'à votre reconnaissance, et la gratitude est un sentiment bien froid. Vous le savez, ma pauvre Mary est malade, très malade. Pour triompher du mal, pour lui donner la force de vivre, il lui faudrait l'atmosphère chaude, les joies divines d'un amour partagé. C'est là que le salut pour elle. Celui de qui ce salut dépend, la laissera-t-il mourir? Le millionnaire ferma sa lettre en se disant que les quelques lignes tracées par lui produiraient un grand effet sur Lucien et ne tarderaient point à l'amener à composition. Nous qui connaissons mieux que lui le cœur du jeune homme, nous pouvons affirmer qu'il se trompait. Nous avons entendu Ovide Soliveau, qu'Amanda connaissait sous le pseudonyme fantaisiste de Baron Arnold de Reis, qu'il s'était donné, annoncer à la jeune fille qu'il ne déjeunerait pas avec elle le lendemain, étant appelé à Fontainebleau pour des affaires d'intérêt. Le lendemain, vers 9 heures du matin, il sortit de chez lui vêtu comme un bon bourgeois, sans la moindre prétention à l'élégance, et portant une paire de lunettes au vert légèrement teintées de bleu, qui modifiaient d'une façon complète sa physionomie. Il se dirigea tout en flânant vers la gare du chemin de fer de la rue Saint-Lazare, déjeuna au café placé sous les arcades et gravit l'escalier conduisant à la salle de distribution des billets. Là, il prit un ticket pour Bois-Colomb. Le train allait partir. Il monta dans un compartiment de seconde classe, descendit à la station, puis, se souvenant à merveille de l'itinéraire tracé la veille par la jeune essayeuse de Madame Augustine, il sortit de la gare et longea la rue qui se dirige en droite ligne vers la voie de Versailles. Arrivé au passage à niveau, momentanément fermé, il fut obligé d'attendre qu'un train eût passé et que les barrières fussent rouvertes. Il traversa sur les rails. L'essayeuse avait dit « On côtoie la voie par un petit chemin à droite ». Ovid prit à droite et s'engagea dans ce chemin, qui ne comptait pas plus de 2 mètres de largeur. Une haie d'épines flanquée de treillages le bordait d'un côté. De l'autre se trouvaient les murailles de clôture de petites propriétés particulières, dont les maisons d'habitation étaient pour la plupart éloignées de la voie ferrée.